Et aujourd'hui, nous dérogeons à la lecture suivie de l'Évangile selon Luc, qui nous est proposée cette année, pour aller dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 6, les versets 34 à 44. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une foule nombreuse. Il fut bouleversé par ces gens, parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme il était déjà tard, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent : « Il est déjà tard, et cet endroit est inhabité. Renvoie ces gens, pour qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Il lui demande : « Irons-nous dépenser 200 pièces d'argent pour acheter du pain et leur donner à manger ?» Jésus leur dit : « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils se renseignèrent et lui dirent : « Nous avons 5 pains et 2 poissons. » Alors Jésus leur donna l'ordre de tous s'installer par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par groupes de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains, les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit une prière de bénédiction. Il partagea les pains et il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent aux gens. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Chacun mangea à sa faim. On emporta les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 corbeilles et les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Ce récit de la multiplication des pains fait partie de ces passages que nous avons relus 100 fois, que nous croyons connaître par cœur, et c'est peut-être vrai d'ailleurs pour certains d'entre nous. Nous les avons entendus dans ce cadre-ci, dans un culte ou un autre, ce qu'on appelait autrefois les écoles du dimanche. On a arrêté d'appeler ces choses comme ça, c'était traumatisant. Il ne manquait plus qu'à corriger les copies en rouge et on faisait fuir tout le monde. On l'a entendu partout, dans les cultes, on l'a chanté sous forme de cantiques. Les enfants de tous âges l'ont médité encore et encore dans leur séance de caté au fil des ans. Et comme tous ces passages, on se dit, y a-t-il quelque chose de surprenant là-dedans, mais faut-il être toujours surpris quand on ouvre une Bible pour avoir envie aussi de retrouver des choses qu'on n'a pas lues depuis longtemps et qui font chaud au cœur quand on les retrouve intactes. Ce n'est pas interdit non plus. Relu aujourd'hui dans le contexte de ce culte, est-ce qu'il ce qui le prolongera, bien sûr, ce temps de culte, un repas où nous accueillons notamment ceux qui vivent toutes sortes de formes de précarité, de solitude et tout ce qui va avec, toutes les fragilités qui ne se disent pas quand on est à table, qui ne se disent pas tout court parfois, ce texte résonne évidemment avec force. Parce que c'est une histoire qui parle de faim, de foule, de fatigue évidemment, de manque, mais aussi parce qu'elle parle de la compassion de Jésus et de son appel à partager ce que nous avons même quand c'est très peu. Et nous avons très peu à partager. Mais il est question de compassion, ce n'est pas un enseignement pour remplir des crânes, comme un sermon sur la montagne, pour donner de nouvelles bases et puis relancer pour un nouveau cycle les fondamentaux qui nous font vivre. Ce n'est pas pour revenir au classique. Le verbe qui est utilisé, qui est imprononçable, est conjugué, et quand on le trouve dans le dictionnaire grec, je vous le dis quand même parce que c'est un vrai plaisir, j'espère que je ne vais pas rajouter de l'humidité au climat, c'est splanknizomai, c'est ça, ça s'éructe, hein, ça s'éternue un peu ce verbe. Il a un sens vraiment très, très très précis, il fut ému de compassion ou il fut pris aux entrailles. Il faut vraiment comprendre ça au premier degré. Il eut les tripes remuées par ce qu'il voyait. Ça ne veut pas dire autre chose que ça, ce sens très physique de quelque chose qui, dans l'état des autres, vous prend là. Ça veut dire ça très exactement. Ça veut dire aussi que ce que nous faisons trouve son siège là et pas parce que nous aurions le devoir ou l'idée simplement de le faire, mais parce que quelque chose, nous aussi, nous prend, comme cela, aux tripes. Ils étaient comme des brebis sans berger. Il faut dire que les disciples reviennent de mission, eux aussi, épuisés. Jésus voulait les conduire à l'écart pour se reposer. C'est raté. La foule les devance, tout le monde est fatigué. Ils sont désorientés, il y a de la lassitude, du désespoir sans doute. Et Jésus, en voyant ces gens, est justement saisi par cette émotion. Et ça commence comme ça. C'est vraiment quelque chose de viscéral, comme une réaction qui vient des entrailles. Et puis, constater qu'ils sont comme des moutons ou des brebis sans berger, c'est remarquer tout de suite ce qui peut-être ne se dit pas, mais se voit. C'est leur sentiment ou l'air qu'ils ont d'être vraiment à l'abandon. Dans l'absence de repères, de lieux sûrs, de nourriture ou de protection, même si par divers canaux, on leur a trouvé un endroit pour dormir, on n'est pas forcément sûr d'y garder son intégrité physique ou c'est les quelques affaires qu'on a avec soi. Précaire. Aujourd'hui encore, beaucoup autour de nous vivent, mais peut-être aussi parmi nous, vivent ces expériences de pauvreté matérielle, de solitude affective, de manque divers. Certains que nous retrouverons au repas tout de suite après portent dans leur corps et leur histoire cette même fatigue, cette chose qui fait que quand on vous demande de vous asseoir, vous vous laissez tomber là où vous êtes. La compassion exprimée par Jésus ici les rejoint, eux aussi. Ce qui touche Jésus et nous à la relecture de ce passage, ce n'est pas d'abord le manque de pain. Ce qui le touche, c'est la personne qui est en face de lui. Avant de nourrir, ça viendra après, il regarde. Avant de partager des pains, il partage déjà une présence et des paroles, et pas n'importe lesquelles. La mission de l'Église, c'est aussi certainement commencer par un regard vrai qui est peut-être pris au tout début, un regard qui ne se détourne pas, qui regarde ce qui se donne à voir, qui ne fuit pas, et qui reconnaît l'autre ensuite dans sa dignité. À la fin de la journée, les disciples sentent venir le problème. Tu sais, il se fait tard, tu devrais les renvoyer pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger. Ils sont raisonnables et responsables, les disciples. Nous aurions peut-être fait sûrement la même chose. Personne ne pourrait leur donner tort. Nous aussi, devant l'ampleur de ce qui se présente, devant l'ampleur des souffrances, nous sommes tentés de dire « Ce n'est pas ici qu'ils trouveront de quoi. Envoyons-les ailleurs, renvoyons-les. » Nous ne pouvons pas tout porter, il faudrait des structures plus grandes, nous ne pouvons pas tout faire, nous manquons de bénévoles, nous voudrions des moyens plus importants, et tout ça est vrai. Nos limites sont réelles. L'Église n'a pas vocation à résoudre tous les problèmes. Elle ne le peut pas, elle ne le fait pas d'ailleurs. Elle ne doit pas se le reprocher. Mais Jésus refuse de renvoyer la foule parce qu'il a compris la différence entre dire « c'est hors de ma portée » et « ce n'est pas mon problème ». Laisser quelqu'un seul dans sa détresse alors qu'il se trouve tout près de nous, c'est cela que Jésus refuse en faisant cette réponse. Mais parce qu'il n'est jamais avare d'une réplique difficile à empoigner, il dit cette phrase déstabilisante, « Eh bien, donnez-leur vous-même à manger, avec les petits 5 pains, les petits poissons, le peu à distribuer entre beaucoup, la petite miette qui reviendra à chacun. » Il les met face à cette difficulté. C'est à vous de vous en occuper, et vous aurez peu de moyens. Phrase simple, mais immense, puisque Jésus ne demande pas aux disciples de créer de la nourriture à partir de rien. C'est comme ça que ce passage a été interprété souvent. Vous avez des paniers sans nombre, tous vides, 5 petits pains, 5 de poissons, et puis on les soulève et tout d'un coup ils sont lourds, c'est apparu comme ça. Bon, pourquoi pas, mais il ne leur demande pas à aucun moment, ce passage ne s'attarde sur le comment, ça n'est pas l'objectif de ce texte. Il leur demande simplement de commencer quelque chose avec le peu qu'ils ont. C'est bien ça que nous faisons. Parce que les disciples comptent. Nous aussi, nous comptons dans une épicerie sociale, on fait son inventaire, on regarde les boîtes sur les rayons comme n'importe quel commerce. Il faut bien compter pour évaluer ses ressources. 5 pains et 2 poissons, c'est absolument insuffisant, tout le monde le sait. Et pourtant, c'est avec ce peu que je vous demande de commencer à travailler. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Une dynamique spirituelle, beaucoup plus que matérielle, là-dedans, se joue. Dieu ne nous demande pas de distribuer quelque chose que nous n'avons pas. Il nous demande d'offrir ce que nous avons, même si c'est modeste, même si c'est peu. 5 pains et 2 poissons, ce n'est rien du tout, presque rien. Pas rien, c'est peu. Quelle est l'utilité de tout cela ? À quoi bon ? Auraient pu se demander les disciples, et cette question nous pourrions nous la poser aussi quand nous voyons l'ampleur des besoins. Le miracle commence là, dans le fait d'obéir et de dire « c'est vrai, j'ai peu, mais je vais donner ce que j'ai ». Jésus prend le pain, le bénit, le rompt et le donne à ses disciples. Ça nous rappelle évidemment quelque chose. Nous allons le refaire ce geste tout à l'heure. C'est le même que lors de la scène. C'est une liturgie de la vie, parce que c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. Ici, avec un geste qui récapitule beaucoup de choses, et puis dans la vraie vie, elle commencera tout à l'heure, avec ces gestes prolongés par un vrai don, une vraie distribution. Jésus prend dans notre ordinaire et il en fait quelque chose d'extraordinaire, ou plus exactement nous demande, nous, à nous, de faire quelque chose d'extraordinaire avec cet ordinaire. Évidemment, beaucoup ont discuté, je vous le disais, du comment, du miracle, multiplication surnaturelle, pour éviter de savoir comment on crée des pains et des poissons ex nihilo, ce qui est une question théologique insurmontable, hein, bien sûr. On s'est rabattu sur du symbolique, en se disant que c'était peut-être moins puissant, mais c'est ce qui nous restait. En réalité, nous nous sommes trompés, c'est bien le repas symbolique qui, dans l'écorce où il faut aller le chercher, ouvre à toutes sortes d'autres repas, qui est la force de ce texte. Ce qui compte, c'est le résultat. Tous mangent, tous sont rassasiés, il en reste même. Et vous verrez, à la fin de la journée, il y aura aussi des restes, parce qu'il y a trop. Ils seront distribués. De toute façon, ça profitera à quelqu'un. Mais il y a suffisamment avec peu. La vraie abondance naît, arrive, quand nous refusons de garder ce que nous avons. Alors, il y avait 3 possibilités, évidemment, là-dedans. Jésus aurait pu dire... Moi, je vais bénir les pains, c'est ma fonction, le sacré, ça me connaît. Je vais bénir les pains, je vous donne quelques petits morceaux et après, débrouillez-vous. Il aurait pu dire aussi, je vous connais, vous revenez de mission et c'était pas brillant. Vous êtes un peu gauche de la main droite et pas très adroit de la main gauche, je vais m'en occuper. Allez vous asseoir là-bas avec les autres, puis regardez et apprenez. Ce n'est pas non plus ce qu'il fait. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. 2 extrêmes, 2 écueils à éviter. Et il a été assez sage pour trouver la sagesse du juste milieu. Il ne distribue pas lui-même les pains, mais il fait ce qu'il avait à faire. Et les disciples aussi. Après ce geste de bénédiction qui nous rappelle d'où nous tenons ce que nous avons dans nos assiettes, ce sont les dizaines de paires de mains qui distribuent, qui sont tout aussi indispensables que la prière première. Finalement, tout le monde est indispensable là-dedans. Le miracle a lieu parce qu'on sait ce que signifient tous les repas, où s'expriment tous les manques et où notre responsabilité est engagée. C'est ça le miracle. Mais tout le monde est indispensable. En ouvrant aujourd'hui aussi un repas simple, fraternel, que nous avons pris plaisir à préparer. Nous rejoignons ce geste des disciples, nous prenons ce que nous avons, nous l'offrons, nous le partageons au nom du Christ. C'est comme si cette table se tordait comme ça, en pointillé, dégringolait les escaliers et se poursuive en bas dans la salle. C'est la même table, bien sûr. Le repas qui suit ce culte n'est pas une simple action de solidarité, même si c'en est une aussi. C'est surtout, parce que c'est le prolongement de cette table en haut, un signe du royaume, une prolongation de la table du Christ, comme quand nous y participons, comme nous le ferons tout à l'heure. Une table où chacun a sa place, où celui qui a faim est honoré comme un invité précieux, où celui qui est fragile est accueilli comme tout le monde, parce qu'il y a sa place. C'est un appel pour nous. La solidarité qui est la nôtre n'est pas un geste improvisé. C'est ordonné dans ce texte. On fait asseoir les gens par paquets de 50 ou de 100. C'est pas jetez-vous sur l'herbe, là où vous êtes. Et puis on distribue pas comme ça. Non. C'est très ordonné. Ça ressemble un peu aux tables du bas, vous savez, rectangulaires. Les légions romaines, bien rectangulaires, bien au carré, avec angle droit. Ordonné pour que tout le monde ait ce qu'il est en droit d'attendre et que ça se fasse dans l'ordre. Et qu'en plus de remplir des assiettes, les gens puissent se parler et que ce moment soit autre chose que se remplir le ventre, mais aussi entendre des paroles qui font du bien, quitter la table, venir assister à quelque chose qui vous change de votre ordinaire, justement, de la musique, autre chose que vous n'entendez pas le reste du temps, et puis repartir avec ce qui vous permettra peut-être de traverser l'hiver sans avoir trop froid. C'est toujours un peu plus dans le geste. Il y a un appel pour nous dans cet ordre, cette volonté de faire les choses bien et ordonnées pour que chacun reparte avec ce qu'il attendait. Dans un repas partagé, il ne s'agit pas simplement de donner, mais il s'agit aussi de rencontrer. C'est pour ça que les bénévoles, en plus de servir, vont s'asseoir aussi aux tables pour partager le repas avec quelqu'un et pas être simplement là dans le don ou la distribution. C'est nécessaire, mais il faut aussi avoir une conversation avec ceux qui sont là. Peut-être que certains ne viendront pas chercher uniquement de la nourriture, après tout, mais aussi peut-être ces paroles, ces choses en plus qui sont données aujourd'hui. Un sourire, une présence. Et puis, à la fin, n'en doutons pas, viendront les 12 paniers de reste. Évidemment, le chiffre n'est pas fortuit. Vous savez très bien que 12, comme les 12 tribus d'Israël, c'est un peu comme si Jésus avait dit à travers ce nombre, il y en aura pour tout le peuple, même ceux qui viennent de loin, parce qu'ils sont tous à considérer comme étant des nôtres. C'est ça qu'il faut comprendre dans la totalité symbolique de ce peuple qui se rassemble autour d'une table. La grâce de Dieu ne s'épuise pas quand on la partage. Au contraire, elle grandit, elle ne s'éparpille pas, ne s'effiloche pas, ne se dilue pas. Elle se démultiplie quand elle se partage. C'est ce que nous avons du mal à comprendre d'ailleurs assez souvent. Quand nous nous préparons à partager un repas comme celui qui nous attend, celui-ci d'abord et l'autre ensuite, il nous rappelle que Jésus commence par être ému de compassion, pris aux tripes devant les foules d'aujourd'hui avec les manques qui les caractérisent. Il faudrait ne jamais rompre avec ça. On nous demande de penser et de réfléchir. Mais il n'y a pas que la pensée qui nous fait avancer, il y a aussi un regard qui ne fuit pas et des tripes qui se serrent devant la misère qui se présente à nous. Jésus dit aussi, donnez-leur vous-même à manger, vos mains, j'en ai besoin, je ne ferai pas tout. Je dis déjà la bénédiction pour que vous sachiez d'où vient le miracle qui va se produire et qui remercier après ça. Mais j'ai besoin de vos mains. Il dit aussi que nous ne sommes pas appelés à résoudre toute la misère du monde, mais à offrir ce que nous avons. C'est déjà ça le miracle, quand on commence à donner. Il nous dit aussi que le partage ouvre à l'abondance. Vous avez l'impression d'avoir peu, mais vous verrez, tout le monde mangera à sa faim. Il nous dit enfin que Dieu passe par nos mains pour continuer son œuvre et que chaque repas partagé est une parabole de celui que nous partageons régulièrement entre nous. La précarité augmente, nous le savons. Elle atteint des catégories de population qui pensaient être à l'abri. L'Église est appelée à être un lieu où on peut goûter quelque chose de la générosité de Dieu qui se donne toujours, même s'il y a peu. Nous savons bien que les repas que nous organisons ne résolvent pas toutes les difficultés des personnes que nous accueillons, une partie seulement. Mais que deviendraient ces personnes si nous ne faisions pas notre part à nous ? Et peut-être un signe dans ce repas, le signe que personne ne doit être oublié, même s'il ne fait que transiter quelques heures au milieu de nous. En face de la foule affamée, Jésus ne dit pas « Écoutez, c'est trop, nous n'avons pas assez ». Il ne dit pas non plus « Renvoyez-les ». Il dit « Donnez-leur vous-même à manger, personne ne le fera à notre place ». Il faut que cette parole qui vient d'une émotion et pas d'un raisonnement ou d'un enchaînement d'arguments, cette parole qui est celle de Jésus, qui est d'abord une attitude, nous inspire encore aujourd'hui, qu'elle nous relève et qu'elle nous encourage et nous rappelle en permanence pourquoi nous donnons un peu de notre pain à d'autres. Amen.